56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
Le National, 4 fois 20 ans.
France Inter. La voix est libre.
À 15h04, d'ici quelques secondes, sur Inter, tout de suite là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Good to see, good to see. Ennemi en face.
Attention.
Attention, ennemi. Ennemi, ennemi.
Armez vos fusils.
Oh, vous êtes prêts, les gars?
On est prêts.
Alors, à l'assaut, à l'attaque, allez-y. Tirez, allez-y, tirez, tirez.
Allez, en avant, on y va, allez.
Allez, en avant, en avant, en avant, en avant. Allez-y, les gars, allez-y, allez-y,
allez-y,
tirez. En avant.
Alors, où sommes-nous? D'après vous, ce que vous venez d'entendre, ce que vous entendez... Ah ouh! Ouais, c'est dur, ça siffle aux oreilles. Eh oui, c'est le centenaire. Mais où sommes-nous? Oh, vous vous dites oui, on doit être quelque part dans un film, une vieille pièce radiophonique, quelque chose qui se passe quelque part dans la Somme, Verdun, au Chemin des Dames. Pas tout à fait, pas tellement. Ça s'appelle « Adieu que la guerre est jolie » et c'est notre sujet du jour. Auparavant, quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base du GISPU au 01 56 40 37 37.
Bon, ben, je crois qu'il nous reste plus qu'une chose à faire, hein. C'est d'attendre l'apocalypse. Allez, salut.
Bonjour, ça c'est un petit message pour Manuel Valls. Oui, j'ai l'impression que le pauvre, il est en train de se mettre tout le monde à dos, la droite comme la gauche. Et pourtant, pour trouver 50 milliards, il y a une idée qui plairait aussi bien à la droite et à la gauche, c'est de faire comme les Américains. Ben oui, faire comme les Américains. La chasse à la fraude fiscale. 62 milliards, hein, c'est ça qui se promène par là, à droite à gauche. Alors, attendez, on veut de l'américanisme, il veut, on a toujours prêché le modèle américain. Eh bien, on fait tous la chasse à la fraude fiscale. Et on les a, les 62 milliards. Tu te rends compte, 12 milliards de RAB. On va pouvoir en faire de belles choses avec ça. Hein. Allez, salut Manuel, à bientôt et bon courage.
Le projet de Frédéric Lordon n'en termine pas avec la guerre économique à l'échelle de l'Europe et du monde. Guerre des monnaies, dévaluation, paradis fiscaux, libre-échange, protectionnisme, dumping, jouer le droit d'un pays contre un autre, contraintes extérieures, une réorganisation de la politique européenne dans le cadre d'un rapport de force majoritaire et donc dans le cadre de la vie démocratique, soutenant l'harmonisation par le haut, un nouveau rôle de la BCE, la fin de la concurrence libre et non faussée, c'est avoir la vision d'un partenariat égalitaire entre travailleurs européens. Si refonder l'Europe est l'enjeu, le cadre national et la souveraineté nationale sont aussi des espaces de pouvoir à conquérir. Régis de Nîmes.
Bonjour Daniel, on est des parents d'élèves sous le coup d'une menace de suppression de poste par l'inspection académique en milieu rural. L'inspection académique considère qu'il nous manque qu'un seul élève, donc ils veulent nous sucrer une classe. Donc les parents d'élèves, on se mobilise, on n'est pas contents. Ça fait 10 jours qu'on fait un petit peu de bruit, qu'on essaye de faire passer des articles dans les journaux, la radio, même la télé régionale. France 3, Pays Gardois, et d'un mardi, on est donc devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale au 58 rue Roger de Lille à Nîmes pour manifester notre désaccord, puisque demain, c'est la réunion qui prendra sa décision finale. L'après-midi, ça se passe à la préfecture, il y aura tout un rassemblement aussi à l'heure du déjeuner, puisqu'on n'est pas la seule école, on va tous se mobiliser, tous ensemble. Et si la décision est négative, bah, notre mobilisation continuera. Et surtout, comme dit ton collègue, on lâche rien. C'était Mathieu Dugard.
Salut toute l'équipe. Moi, je suis comme certains aussi qui se posent des questions sur votre mode de sélection des annonces. Parce que moi, j'en envoie une pléthore d'annonces et je m'entends jamais à l'antenne, quoi. Déjà, on exclut pas mal dans cette putain de société, voire de secte, hein, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir l'armée sur le dos en permanence. Le pouvoir, quoi, si c'est pas dans le travail... C'est dans toutes les institutions, aussi bien aussi l'éducation, qui encourage les gamins à se monter la tête contre les parents, pour n'aboutir à rien, aucun diplôme, ou des diplômes qui servent à rien. Je suis comme beaucoup de gens bien en colère, Je ne sais pas s'il va passer le message, hein, comme d'habitude, quoi. On est en droit de se poser pas mal de questions par rapport à son émission, par rapport à ce qui s'est passé, parce que si tu viens après coup, si... tout un tas de choses. Quand on est bien en colère, on en a après tout le monde, quoi.
Avec une grande tristesse, j'annonce combattu.
Avec la complicité de la petite Emmanuelle de l'Anilis, cucurbite, partie inférieure de la chaudière de l'alambic qui renferme la matière à distiller. No comment. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Oh Dieu, que la guerre est jolie.
Flight number 2, arriving from New York.
Ouais, mais j'avance les marches. Non, bon, lâche.
A sorti la trachée. Vas-y, les gars. Vas-y, viens. Faut recharger, c'est difficile de recharger. Faire attention de pas boucher le canon. Il faut se défendre.
Recharge encore?
Ah oui, on recharge.
Ça sent la poudre.
Ah oui, ça sent la poudre, c'est enivrant la poudre. On est caché dans un trou d'obus, on se protège des Allemands qui nous guettent. Mais dans la précipitation, faut pas se faire opérer. Je recharge le fusil. J'en vois une qui sort la tête. Ah, la forêt. Fonctionne plus. C'est enrayé.
Mon arme est enrayée.
Ramenez, vous m'appelez, vous m'appelez à
pêcher. Ah, je vais ramasser. Robert, il est blessé. Brancardier.
Je vais ramener un soldat blessé. Il a été blessé à la jambe. Je vais le ramener dans la tranchée le plus proche possible. Les brancardiers vont le hisser dans la tranchée et vont l'amener vers l'arrière dès que ça sera plus calme pour le soigner. Mais le problème, c'est qu'on va devoir attendre sûrement la nuit pour pouvoir sortir. Là, si j'essaie d'avancer, je vais être tiré comme un lapin. Donc, on va attendre la nuit.
Et la ligne ennemie, elle est à combien de mètres, là?
À 10 mètres. En fait, je crois qu'à la fin, on n'a même plus de but. On veut avancer, mais on ne sait même plus pourquoi. Je crois qu'on exécute les ordres, tout simplement. Et qu'on veut sauver sa peau, c'est tout. Là, l'obscurité tombe, donc on va pouvoir en profiter. Discrètement, évidemment, sans faire trop de bruit. Et éviter de trébucher dans le barbelé qui ferait du bruit, qui pourrait alerter l'ennemi pour nous tirer dessus. Parce qu'évidemment, ils ont bien repéré le terrain et les endroits où nous sommes cachés. L'ennemi est prêt à faire feu sur nos trous d'obus où nous sommes cachés. Donc on va y aller discrètement. En rampant. En évitant les balles. À travers les barbelés, les corps de mes camarades. On escalade le talus, et on saute dans la tranchée ou on descend avec l'échelle. Alors j'ai ramené un petit souvenir, j'ai récupéré un casque allemand. Je vais essayer d'amener ça à ma famille, que je serai en permission si je rentre vivant.
Il me semble l'échelle.
C'est comme la pornographie, Nous sommes contre, mais nous sommes irrésistiblement intégrés. C'est l'embouteillage pour reluquer l'accident, l'autre côté de la route. C'est la partouze, vue des millions de fois sur un site porno. Aujourd'hui, la partouze se démocratise. Patrick et Annick s'échangent entre amis le samedi soir dans leur pavillon de Romorantin. Et de même, Jean-Pierre et Monique jouent à la guerre avec leurs copains. La bataille de Waterloo, le débarquement en Normandie, les tranchées de Verdun, avec les costumes impeccables, les armes reconstituées, les chants, les cris, toute la mise en scène. Les reconstitutions historiques font florès en France. Depuis longtemps, aux États-Unis, la Living History, jeu de rôle grandeur nature, compte de nombreux passionnés. On joue à la guerre, comme on jouait aux cow-boys, aux indiens, aux corsaires, aux pirates. C'est un genre d'enfance qui se prolonge, un genre d'enfance qui fait de la résistance. Aujourd'hui, on va à Altaine-les-Palus, quelque part dans le Vaucluse, avec l'association Mémoire de Poilus, qui entretient le devoir de mémoire et peut vous faire des reconstitutions pédagogiques pour la sauvegarde du patrimoine historique, uniforme, matériel, véhicule, document, jusqu'au moindre petit bouton de capote. Alors bien sûr, les savants historiens méprisent ces mascarades d'amateurs, tout comme l'esthète érotologue déplore la vulgarité du pornographe amateur. Que ces rapprochements intempestifs entre l'amour et la guerre ne blessent ni les uns ni les autres. Ici, nulle blessure d'amour réel, nulle blessure de guerre effective. Ici, on joue à croire que jouer, c'est déjouer. Apollinaire Guillaume, à qui le titre est emprunté, « Ah Dieu que la guerre est jolie », fit les deux, la guerre et l'amour, celle de 14 dans les tranchées, et la pornographie la plus débridée. Il avoua cet inavouable « Ah Dieu que la guerre est jolie ».
Près de la nouvelle frontière, un officier s'est arrêté. À la porte d'une chaumière, il frappe avec anxiété. Une femme dont la mamelle allait un gentil chérubin, ouvrant, demandant « Qui m'appelle ?» et voit l'uniforme prussien. « Femme, dit l'officier, écoute ma prière, pour lui donner ton lait, je t'apporte un enfant, dis-moi si tu consens à lui servir de mère, moi je suis un soldat du pays allemand. J'avais un fils, dit la Lorraine, blond chérubin comme le tien. Mon homme et moi tenions la plaine devant un régiment prussien. Quand tes soldats sous de carnage mirent le feu dans mon hameau, et sans pitié pour son jeune âge tuèrent l'enfant dans son berceau. Va, passe ton chemin, ma mamelle est française. N'entre pas sous mon toit, emporte ton enfant, mes garçons chanteront plus tard la Marseillaise. Je ne vends pas mon lait au fils d'un Allemand.
Ne pas glisser surtout. Après, elles se calent les unes aux autres, les caillebotis. Ah là, il y a 3 semaines, 60 cm d'eau. Hein.
Comme à l'époque.
Tous les caillebotis flottaient. Là où il y a la mitrailleuse, ben on voit, hein, il y a encore les traces de la hauteur d'eau. Hein. Dans la casemate de l'officier, le lit superposé, le lit du bas, et ben, il flottait. Des fois, on fait des week-ends avec les copains de l'association. Et on dort dans la tranchée, dans la casemate de l'officier et tout, et on se remet vraiment dans les conditions de l'époque. S'il fait froid, ben on a froid. S'il fait humide, ben on est tout mouillé. Et là, il n'y a que l'inondation. Franchement, on a essayé d'y rentrer en tenue. On en est vite ressorti, parce que c'est vraiment très très froid, quoi. C'est...
Mais alors là, Fanny, on est où exactement ?
Mais là, on est dans mon jardin, le jardin de ma maison, dans le Vaucluse, donc très loin des combats d'origine. J'ai acheté cette maison avec mon époux, dans l'idée de faire une tranchée qu'on a fait maintenant. Et c'était un projet qu'on avait en tête depuis 10 ans. En fait, c'est une passion, hein, c'est une passion qui est dévorante. En fait, on voulait permettre aux enfants de notre région de pouvoir venir visiter ce qui était une tranchée, même si elle est reconstituée. Hein. Donc pour nous, le souci, c'est que ça s'effondre. Hein. C'est de la terre, c'est pas de la craie qu'on pourrait trouver dans l'Artois. Et on a fait des tranchées qu'on pouvait trouver typiquement dans les Vosges, qui est habillée de bois pour maintenir les côtés de la tranchée pour pas que ça s'effondre. Hein. C'est une tranchée qui nous est revenue à peu près 3 à 4 000 euros. Et après, il faut compter tout l'entretien chaque année.
Et alors là, on est au tout début de la tranchée ?
Oui. Alors là, on est sous l'abri de la mitrailleuse, avec une mitrailleuse Hotchkiss. Après, on a un boyau qui nous amène vers la tranchée de la soif, pour partir à l'arrière ou pour repartir sur une autre tranchée en se mettant à l'abri.
Et elle fait combien de long, la
tranchée ? Elle fait une quarantaine de mètres. Donc on avance. Là, on arrive dans le petit recoin qui servait pour se mettre à l'abri et dormir, hein. Comme à l'époque, un petit trou. Hein. Il y a des bouteilles qui sont échouées un peu de partout. Il y a, voilà, c'est sa vie. Elle n'est pas très propre, il y a de la boue partout.
Et là, c'est censé être du barbelé, mais c'est pas vraiment...
Oui, c'est par souci de sécurité, le fil de fer barbelé, on l'a fait avec du cordage de lignon noir où on a fait des nœuds et on a coupé et ça fait un visuel de fil de fer barbelé. Sauf que si on y tombe dessus, on se fait absolument pas mal.
Bon, vous préparez pour l'assaut. Car l'ennemi va bientôt attaquer, alors quand je voudrais partir, vous partirez. Après, alors à l'assaut. Voilà, en avant, en avant, en avant, en avant. Allez-y, les gars, allez-y, allez-y, tirez. En avant.
Vas-y, viens.
Mais voilà, là, on va se cacher dans un trou d'obus, on évite les tirs de l'ennemi.
Stéphane,
on a de la chance, il n'y a pas tout aujourd'hui.
Ils font combien là les trous? Ils font plusieurs mètres de profondeur.
Ah, celui-ci il fait 1,50 m de profondeur, mais vous avez des trous de diamètre différents, de beaucoup plus gros calibre. Là on a de la chance. Là dans le trou on ne peut pas nous atteindre. Par les grenades, oui, on peut nous atteindre par les grenades. Mais la plupart du temps, les soldats sont tués dès la sortie du parapet.
Et on est un peu à l'abri.
Il y a du vent, il y a beaucoup de vent.
Alors là, on est dans la casemate de l'officier. Il y a son bureau avec sa chaise et le nécessaire pour pouvoir écrire, le téléphone, la lampe à pétrole. Enfin, il a tout ce qu'il a besoin, quoi. Il a même un poêle à bois, vous voyez, pour se chauffer. Et après, il y a un lit superposé pour lui et son aide de camp.
C'est une petite pièce de 4 mètres carrés, quoi, à peu près.
Oui, c'est ça. Pas plus, hein, 3 mètres 50, 4 mètres carrés.
Et tout ça, c'est vous qui l'avez construit ?
Oui. Ça a demandé pas loin de 4 mois, tous les jours entre midi et 2, le soir, le week-end et tous les congés payés. Voilà, ça, on y a tout passé dedans.
Votre mari aussi, c'est un passionné de la guerre 14 ?
Oui, tous les deux. Alors, je crois qu'il vaut mieux parce que c'est trop prenant, en fait, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on est arrivé à un stade où c'est obsédant parce qu'on se lève le matin, on pense à ça, on se couche le soir, on pense à ça et on se réveille la nuit parce qu'on pense à ça. C'est tout le temps. Tout le temps. Trouver des solutions, réfléchir à des choses.
Et ça vous est venu d'où, cette passion ?
Pour moi, personnellement, c'est parce que du côté de mon père, on vient d'Alsace, avec tout ce que cela comporte au niveau historique. Ma grand-mère nous a raconté l'histoire de notre famille. Moi, je devais avoir 8 ou 9 ans, peut-être même moins. Donc ça a démarré très jeune. Et pour mon époux, parce que c'est son arrière-grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Ah, et mon époux, on était passionnés, donc on collectionnait. Puis on s'est dit, on pourrait éventuellement faire une exposition. On a créé l'association comme ça. C'est l'association Mémoire de Poilu. Alors on l'a créée en 2002. Et en 2003, on a fait notre première prise d'armes en uniforme. Et voilà, et puis du coup, ben, ça a fait boule de neige et puis on a continué.
Il y a combien de membres alors ?
47 membres cette année.
Et sinon, vous faites quoi dans la vie ? Vous travaillez ?
Moi ? Ouais. Pas du tout. Je travaille non rémunéré. C'est-à-dire que j'interviens en milieu scolaire, je fais visiter la tranchée, je mets en place des expositions et je m'occupe de la mise en place de tout ce qui est manifestation de l'association. Mon mari travaille. Ouais. Il est dans la recherche d'eau potable. Il est foreur. passionnée aussi, hein, autant que moi, voire plus. En fait, on ne sait pas.
Et je vois, vous êtes habillée aussi, mais c'est comme à l'époque.
Oui. Là, je suis vraiment... je suis habillée de façon décontractée, hein, parce que j'ai juste mon pantalon garance, avec les bretelles qui tombent, parce que je ne les ai pas enfilées complètement. J'ai la veste ras le cul qui est ouverte, avec ma chemise col Mao, où je ne suis pas boutonnée jusqu'en haut. Je n'ai pas mis les guêtrons, mais j'ai mes brodequins en clou. Vous voyez, je ne suis pas habillée complètement. Je n'ai pas ma capote, je n'ai pas mon brelage, je n'ai pas mon fusil. Voilà, j'ai mon képi quand même, hein, parce qu'il y a un peu de vent. Je suis comme à l'époque.
Un PC, première compagnie, merci mon colonel. Bien, pardon ? Comment ?
Octobre 1917, quelque part sur le front du chemin des dames.
Marchand, rassemble la troupe ! Dans un quart d'heure, on attaque !
France 3, 10 novembre 2013.
Allez, en avant !
Depuis 1915, le conflit mondial s'enlise. C'est devenu une guerre de position. Une guerre de tranchées très meurtrière. Plus de 10 millions de soldats allemands et français vont mourir jusqu'au 11 novembre 1918. Aujourd'hui, les derniers témoins et acteurs de cette guerre ont disparu, mais dans le Vaucluse, une bande de passionnés de la Grande Guerre a décidé de perpétuer ce souvenir d'une façon très originale. L'association Mémoire de Poilu est composée de 45 membres venus de toute la France et même du Japon, d'Allemagne ou de Suisse. Ils participent tout au long de l'année à des expos, des défilés et des reconstitutions historiques, des membres de tout âge passionnés par cette période de l'histoire de France.
Et là, alors, avec le casque, c'est votre mari.
Voilà, c'est ça, c'est Stéphane, la belle tête de poilu.
Ah oui, il a les moustaches.
oui, les moustaches, ça fait... Depuis 2008, il les a. Il avait laissé pousser pour une reconstitution, il ne les a jamais rasées. Donc, il a une belle tête de poilu. Et il est habillé en bleu horizon, lui, avec un casque, le casque Adrian. C'est la tenue 1915. C'est celle qui est arrivée juste après celle que j'ai, moi, la tenue Pupiou, ce qu'on appelle la tenue Pupiou. Là, il y a eu récupération de casque allemand, c'est prise de guerre.
Qui est-ce qui fait les Allemands ?
Eh bien, c'est celui qui perd. Parce que quand on fait une bêtise, on a perdu, on se retrouve en Allemagne. Moi, je vous rassure, ça ne m'est pas encore arrivé. Moi, je suis plutôt celle qui file les coups de crosse plutôt que de les prendre. Je préfère. On va aller voir les copains.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je les révère et leur donne un satisfait-ci. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18.
Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Même au colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18.
Même au colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Vas-y, Jean.
Vous appelez comment ?
Je m'appelle Stéphane, je suis l'époux de Fanny. Et là, nous sommes dans la tranchée et on va se préparer contre le parapet et avec nos armes prêtes à faire feu. Et notre officier nous donnera l'ordre de monter aux échelles et de partir à l'assaut dans le No Man's Land.
L'officier, c'est qui ?
Ah ben, l'officier aujourd'hui, c'est Jean. C'est lui qui va nous donner l'ordre de partir à l'assaut.
Moi, c'est Jean, du 58e régiment d'infanterie d'Avignon.
Ah là, Stéphane a pris un fusil.
On a repéré du mouvement en face.
De l'autre côté des barbelés.
Ah oui, de l'autre côté des barbelés, oui. Parce qu'en face, il y a des tireurs d'élite, comme de notre côté, évidemment. On va essayer de régler le problème.
Là, il y a le panneau qui indique Berlin.
Et oui, c'est notre objectif, de repousser l'ennemi jusqu'à chez lui. Là, attention. Ouais, je crois que je l'ai eu.
Vous l'avez eu ?
Ouais.
Et là, vous avez tiré que des balles à blanc ?
C'est des balles à blanc, oui. Ah oui, quand même. Alors, on ne doit surtout pas sortir la tête, évidemment. Alors, on observe par ses lucarnes. On évite de tirer trop souvent du même endroit parce que, évidemment, l'ennemi en face essaie de repérer la position de notre mortier de tranchée ou de nos tireurs pour essayer de les détruire.
Et alors ici, on est où ? On est en première ligne ? On est à l'arrière ?
On est en première ligne. Alors les hommes, en général, ils restaient 8 jours en première ligne, en général. Hein. On ne les considérait pas du tout. Parce que c'était vraiment de la chair à canon. Quoi. Pour conquérir 2-3 mètres, on sacrifiait des milliers d'hommes. Complètement inutile. Et on refaisait ça plusieurs fois de suite. Et malheureusement, beaucoup de généraux n'ont pas voulu se remettre en question. Mais n'ont pas été inquiétés pour autant. Hein. Je trouve ça honteux. Puis moi, j'ai eu de la chance de pouvoir discuter avec des gens qui l'ont vécu, de mon village, de Commeux-sur-Durance, mon village d'origine. C'était monsieur Marius Estrata, le dernier poilu de la région en vie, et un ami de ma famille. Et bien, il m'a raconté l'horreur, tout simplement l'horreur. L'horreur, les premières choses qui l'ont choqué au début, c'est l'odeur. L'odeur arrivée sur le champ de bataille, l'odeur des cadavres en putréfaction, les tirs d'obus. Bon, il y avait des moments de calme, évidemment. Mais de voir ses camarades tués au combat, de voir ses corps en décomposition à quelques mètres, les rats. Mais c'est surtout l'odeur des cadavres. C'est la première chose qui l'a choqué. Après, ça a été lors de la prise d'une tranchée allemande. Aux abords de la tranchée, sur les parapets, il y avait un pied qui dépassait, une botte qui dépassait de terrain. Parce qu'évidemment, tout était bouleversé après une attaque. Il y avait des duels d'artillerie, il y avait des explosions. Les cadavres étaient déterrés, les vivants étaient enterrés. C'était la panique, l'apocalypse. Et ce pied dépassait de terrain, cette botte. Donc ce pied, cette botte qui dépassait, ça lui a servi pour accrocher sa musette. Ça lui a servi de porte-manteau, si vous voulez. Et avec une pointe d'humour, il m'a dit « Oh, je crois qu'il y avait le pied à l'intérieur. » Mais bon, il commençait à se déshumaniser. C'était à un moment donné, je pense que pour survivre, on devient une bête. Parce que si on pensait à ce qu'il y avait avec le pied, derrière, le cadavre, la personne, l'humain qui était là, il n'aurait pas supporté la guerre. Puis il buvait beaucoup. Il disait qu'il buvait beaucoup pour se donner du cœur au ventre et pour oublier, pour supporter tout ça. Moi, j'ai vu un reportage il y a quelques années sur Craon. Et le maire de Craon, qui est toujours, je crois que c'est toujours le même maire déjà. Je crois que c'est un reportage qui date d'une quinzaine d'années. Et il avait pu discuter avec un ancien combattant qui avait vécu la bataille de Craon et qui lui disait « Petit, la plaine, elle était toute bleue. J'en ai mis des coups de pied au cul et mes souliers, ils étaient gras de cervelle. » Et la plaine était toute bleue, pourquoi ? Parce que c'était tous les corps des soldats français, en bleu horizon, bleu, qui étaient couchés. Et ses souliers étaient gras parce qu'ils marchaient sur les vivants et les morts. Et ce monsieur me parlait comme ça. Ces gens-là, on ne peut plus atteindre. Ils se sont déconnectés complètement de la réalité.
Tu ne reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu. Quand j'ai déchiré ta chemise et toi non plus, tu ne reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux. Pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis, que ta danse secoue, laisse pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs? La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement, vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
vous auriez aimé la faire, cette guerre, ou...
Non, pas du tout, pas du tout. J'aurais pas aimé faire cette guerre. Je regrette de n'avoir pas pu m'y intéresser beaucoup plus tôt, parce que j'aurais pu rencontrer beaucoup plus d'anciens combattants déjà de mon village. Dans mon village, j'en avais un qui avait une jambe de bois. Étant gamin, on était un peu moqueur. On en avait un autre qui parlait très peu parce qu'il avait été choqué psychologiquement. Il s'était renfermé sur lui-même. Et c'est des gens qui n'en parlaient qu'entre eux. Le monsieur Strata, dont je vous ai cité tout à l'heure, a mis 2 ans à se décider à me parler. Et son fils, qui est un ami d'enfance de mon père, m'a vu quelques temps après et m'a demandé de ne plus le questionner. Parce que son père faisait des cauchemars. En fait, j'avais fait ressurgir, sans le savoir, tout ce qu'il avait enfoui dans un coin de sa mémoire. D'ailleurs, il est mort dans les tranchées. Il est mort à 106 ans, il a eu une pneumonie, ils l'ont mis sous oxygène, oxygène et sédatif. Il a déliré toute la nuit et il revivait les combats. Après, il s'est éteint tout doucement, mais toutes ses pensées, ses dernières pensées. Alors, il poussait des cris, il parlait tantôt en patois, en provençal, en français. Ces gens-là n'ont jamais quitté les tranchées. Les tranchées leur collaient à la peau.
Lui-même, il avait été blessé ou il s'en était sorti ?
Il avait été blessé plusieurs fois. Il a été gazé. Il a une grenade explosée entre ses jambes. Il m'avait montré les cicatrices. Mais ça ne se voyait pas, quoi. Et il avait pris une balle dans le dos aussi. Nous, en quelque part, c'est pas qu'on s'amuse, mais on essaie de faire perdurer leur mémoire. Parce que, évidemment, c'est normal, c'est naturel, on va l'oublier. Petit à petit, on va enfouir ça dans des livres, sur des étagères poussiéreuses. On n'en parle plus trop au programme à l'école. On le survole à peine. La guerre, j'essaie de comprendre, j'essaie de m'imprégner un petit peu. Mais on n'a pas vraiment conscience de l'horreur. Hein. Ce qui faisait tenir le soldat, déjà, on a beaucoup d'écrits de soldats qui sont étonnés, au bout de quelques années de guerre quand même, hein, de l'accueil dans leur village. Par certains villageois qui sont étonnés déjà de les voir vivants. Peut-être un petit peu de jalousie parce que leur fils a été tué et lui est revenu. Et il y avait une incompréhension du soldat par rapport aux civils parce que les civils ignoraient ce qu'ils vivaient. Puisqu'il y avait une chape de plomb formidable, une censure terrible. On ne leur expliquait pas vraiment ce qu'ils vivaient. Tout était censuré. Et comment expliquer à sa famille? Comment le pollue pour expliquer à sa famille ce qu'il vivait? De voir les corps déchiquetés, mutilés, les cadavres, la boue, les poux. Comment expliquer? C'était inexplicable. Donc ces soldats-là étaient contents, mais ça c'est des lettres que j'ai lues d'époque, hein, contents de retrouver leurs camarades de combat. Parce que finalement, ils s'étaient créé un monde à eux.
On était dans la tranchée, alors on nous avertissait, à telle heure nous attaquons.
Marius Lefebvre.
Le matin, on avait touché double ration.
Ancien poilu.
On avait touché un quart de gnôle, 1 litre de vin, 1 litre de café.
1979.
Le capitaine passe, il nous a dit, eh ben à midi, il y aura bien faire attention sur le poste du commandant. Un obus qui éclatait en l'air. Quand il éclatera, ça sera l'attaque. Et tout le monde dehors, hein? Je pars, mais avant de sortir de la tranchée, je fais la tournée que tout le monde soit sorti. Ils nous commandaient avec un revolver au poing. Ceux qui ne sortaient pas. Alors là, tout le monde sortait, on partait. Et tu sais, les mitrailleuses tiraient, les obus tombaient. Si tu réussissais à sauver ta peau, tu la sauvais. Si tu ne réussissais pas, tu étais pris. Et que tu sais, tu avais des copains et il y a des fois, c'était ceux qui peut. Moi, j'ai eu la chance.
Ah, ça tire là encore.
Ça tire. Si, ça y est, je crois qu'il a fait.
J'ai vu bouger en face, donc je. Je vais vérifier, mais bon, après on va avoir des représailles. Là, c'est calme, mais dès qu'on tire, on a des représailles. Ouais. Jean-Pierre, on va essayer.
Monsieur, tes oreillers, gros.
Ah, c'est pour ça qu'il m'a fait tirer là-dessous.
Comme ça, tu fais les toiles d'araignée en même temps. T'es content?
Mon adjudant chef, ça siffle.
T'as vu ce que t'avais dit, la dame, qu'il fallait mettre des bouchons?
Ça siffle, c'est atroce.
C'est les cigales. T'entends les cigales? Hein, t'entends les cigales? Oui. On a toute une armée. Oh, cool. C'est pareil. On a toute une armée de cigales dans les oreilles quand on a fini.
Alors, je reconnais que le bleu que je suis, il en a pris plein les oreilles. Alors, hein.
Ça, c'est une guérite, non?
Un créneau de tir.
Quand on se met dedans, ça résonne.
Eh bien, forcément, c'est confiné et ça résonne.
Et les petites croix qu'on voit, là, ça, c'est quoi?
C'est mort. C'est l'ennemi qui a été tué.
Là, il y a alors
2, 4, 6, 8, 10.
Chaque croix, c'est 2.
Chaque croix, c'est 2. C'est pas cet aspect guerrier qui m'intéresse vraiment. Moi, je vais plus m'intéresser à comment ils vivaient. Là, j'ai fait l'acquisition, on m'a offert un chien. Un croisement entre bosseron et un berger de montagne. Et mon chien, je suis en train de le dresser pour qu'il puisse faire exactement la même chose que ce que les chiens auraient pu faire pendant la Première Guerre mondiale. Je peux lui mettre une sacoche de la Croix-Rouge, lui mettre des trucs dans les sacoches, et la chienne me le trimballe. La chienne est habituée aux tirs de canons, de mitrailleuses. Là, depuis ce matin qu'on tire avec des balles à blanc, elle est dans son enclos et elle est folle parce qu'elle saute partout en se disant où est-ce qu'on s'amuse, où est-ce qu'on s'amuse. Voilà, c'est une chienne qui est habituée à ça. Et elle va nous suivre tout le long des années à venir, oui. Là, je vais commencer très prochainement la formation de chaîne de recherche, puisque le chien, en Première Guerre mondiale, il y a des chiens qui ont été utilisés pour rechercher les blessés au milieu des champs de bataille. Donc, elle va être dressée pour ça aussi, que dans les reconstitutions, elle puisse tenir ce rôle-là.
Et les historiens, ils voient ça de quel œil, les reconstitutions, tout ça?
Je ne vous répondrai pas à cette question. On n'a pas du tout la même conception de l'étude de l'histoire. Moi, pour eux, malgré que j'ai un doctorat, je ne serai jamais historien. Parce que je n'aborde pas du tout l'histoire de la même façon qu'eux.
Un doctorat en histoire, quand même.
Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je l'ai eu il y a un an et demi, deux ans. Il y en a pour beaucoup, on doit aborder l'histoire sur un banc de l'école, avec des livres, et on ne doit pas sortir de là. Mais il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Si on veut intéresser nos enfants, ne serait-ce que un temps soit peu, et arriver à leur apprendre un maximum d'informations en un minimum de temps, il faut sortir de ces livres. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, l'histoire, ça me gonflait. L'histoire dans un livre, ça me saoulait. Je détestais l'histoire. Des livres, c'est abstrait. Et là, il est vraiment temps qu'on me file un coup de jeunesse là-dedans.
Pour le repos, le plaisir du militaire.
Pour le repos, le plaisir du militaire.
Qui est là-bas, à deux pas de la forêt.
Venons, viens nous servir à boire.
Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon.
La Madelon pour nous n'est pas sévère.
Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 la Madelon.
Là, il y avait la lassitude, parce que 3 ans de guerre, c'est quelque chose de très très lourd à vivre, à porter, et ça y est, je crois que c'est la soupe.
c'est la soupe, à table.
C'était un cri de désespoir aussi, hein. Il y en avait assez de cette guerre infâme, et vraiment sacrifié et condamné, c'est ce que ont ressenti les poilus. N'oubliez pas que certains régiments sont montés en première ligne en bêlant. En bêlant, ils ont imité le cri des moutons qui partent à l'abattoir. Et c'est là que la répression a commencé. Certains régiments ont mis la crosse en l'air. Ça veut dire, je ne me bats plus. Je ne veux plus. Alors, on imagine mal maintenant ce que ça peut être de donner l'ordre de sortir de la tranchée, là où nous sommes, pour avancer d'un gain de 2 mètres, parce qu'il fallait reculer. Les cadavres s'accumulaient, on marchait sur le cadavre des collègues, et après on revenait au même endroit d'où on était parti. À un moment, on dit, ça suffit.
Quelle heure il est, là?
Il est 13h20.
Oui, avant qu'il y ait rébellion de poilus, on va manger. Allez, on y va.
Si on ne mange pas, on ne montera pas l'assaut.
D'accord, t'as raison. Tous à la tambouille.
Tous à la tambouille. C'est pas de la merde, mais c'est... Non. C'est pas de la soupe, c'est du ratas. C'est pas de la merde, mais ça viendra.
Stéphane, vous avez sorti la mitraillette du trépied?
Oui, j'enlève la mitrailleuse pour la mettre à l'abri.
Elle tire celle-là? Il y a des balles là à côté.
Celle-là, non, elle est totalement inerte pour le respect de la législation. Après, j'en ai fabriqué 2 identiques, mais elles sont factices en métal avec un simulateur de tir. Donc elles ont la même cadence de tir que l'original. Ça fait le même bruit de détonation. Elles sont inoffensives, elles n'ont qu'un projectile. C'est uniquement la détonation du gaz, quoi. Mais bon, c'est toute une... Refabriquer ça, c'est assez complexe.
Oh là, il y a même là, y a des champignons qui ont poussé là.
Ah oui, bah oui, on a eu 60 cm d'eau cet hiver là. Ça peut vous donner une idée de ce que vivaient les poilus, parce que il restait 8 jours en première ligne, en général. Et évidemment, il était interdit de se dévêtir, de se déchausser. En cas d'attaque, il fallait être prêt, quoi. Donc, il y avait une maladie qu'on appelait le pied de tranchée. C'est-à-dire, c'était le pourrissement des pieds. Donc, il y a beaucoup de soldats qui ont été soit amputés, soit des doigts de pied, de la totalité du pied, hein, suite au pourrissement, quoi. Vous imaginez, on a enlevé les brodequins au bout de quelques jours, les pieds dans l'eau. Vous aviez la peau qui venait avec. L'été, le problème de l'été, c'était les mouches. Les mouches qui se posaient de partout sur les cadavres, évidemment sur la nourriture, ils étaient harcelés par des mouches.
Oui, bien sûr. Bien sûr, les historiens n'ont que mépris et sourire en coin pour ces mascarades, ces reconstitutions d'amateurs qui s'appliquent à tout reconstituer, du revolver à la mitrailleuse, en passant par le moindre bouton de guêtre avec passion. Mais ça fait longtemps que ça dure. Déjà, aux États-Unis, les Living History, on reconstitue des grandes batailles, parfois de la guerre de sécession, ou différentes époques de l'histoire des États-Unis. Il y a là toute une ambiguïté entre revivre quelque chose qui est évidemment absolument impossible. Quand l'histoire repasse les plats la seconde fois, c'est sous forme de farce. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une façon de comprendre en ressentant les choses, mais cela hésite toujours entre le partager, l'héroïsme, la nostalgie de l'héroïsme, et puis l'empathie pour la souffrance infinie, la douleur infinie de ces hommes qui sont morts, ont souffert sur le front durant cette guerre, et que seules les mutineries ont sauvé.
On rentre.
J'ai ça avant moi.
Je sais pas vous, mais moi le sommeil est en long.
Ouais, moi aussi. C'est des gamelles, ça.
Ça, c'est une gamelle réglementaire française. Et avec son quart. Le quart, c'est une petite tasse pour qui servait au poilu. C'était son verre, si vous voulez. Alors tout ça, un fer étamé, quoi. Alors chaque soldat avait cette gamelle, son quart, son bidon, ou sa gourde, parce que les poilus appelaient ça un bidon. Alors là, à un moment du travail, il faut que je répare avec deux gamelles, en faire une.
Mais vous, là, on va pas manger dedans.
Non, 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 non. Mais nous, on a des gamelles. Celle-ci est en parfait état. On peut manger dedans.
Et il faudra que Stéphane la répare parce qu'il y a un trou.
Hein? Oh, mais là, nous allons bientôt les utiliser. Là, à la fin du mois, à Meaux, au musée de Meaux, là, nous aurons notre roulante qui va faire le repas pour toutes les associations, les 5 associations qui sont présentes. Et on va faire comme à l'époque, les soldats vont faire la queue devant la roulante et le cuistot va leur servir leur ration.
La roulante, c'était...
C'est la cuisine de campagne roulante.
Vous en avez une là?
On en a une là, ici, ouais, que nous avons transformée au gaz. À l'origine, son chauffage à bois. On charge ça sur une remorque porte-voiture et on transporte ça par autoroute. Nous avons maintenant 2 véhicules plus la roulante à transporter, le canon. Donc chaque véhicule doit avoir une remorque ou un porte-voiture.
Alors dans votre garage, vous avez...
Une Peugeot, une automitrice Peugeot de 1914. Et là, on est en train de terminer une Berlier 1913. Une automobile Berlier qui était transformée en ambulance.
Vous y passez tout votre temps?
Ah oui, j'y passe tout mon temps. Donc il y avait des gens, c'était la réaction aux obus. C'était une réaction nerveuse. Donc il y avait des gens, des médecins qui pensaient que ces combattants, et anciens combattants après-guerre, puisqu'après, quand la guerre était finie, que ces gens simulaient. Alors que c'était tout à fait nouveau. C'était une maladie nerveuse. L'obusite. Pris de tremblement, oui. Et puis il y avait des soldats qui ne pouvaient plus marcher debout. Qui marchait voûté. Parce que c'était le fait de se déplacer dans les tranchées qui étaient creusées pas assez profondément. Donc ces gens-là, pour éviter d'être blessés, d'être tués par une balle, eh bien, ils se déplaçaient voûtés. Donc ces gens-là sont restés voûtés. Parce que psychologiquement, ils vivaient toujours dans les conditions de combat, quoi. Même après-guerre. Donc il y a eu énormément de gens qui n'avaient pas nécessairement des blessures physiques, mais psychologiques. Mais ça a été prouvé bien plus tard.
Oui, c'est ce qui a été à la guerre du Vietnam ou pour le Golfe, pour nous. Mmh.
Oui, très récemment. On en parle depuis la guerre du Vietnam, finalement, parce que la guerre d'Algérie, d'Indochine, Deuxième Guerre mondiale, on n'en parle pas du tout. Des chocs post-traumatiques. Pour eux, c'était du cinéma. Ces gens-là ont vécu sur leur mort avec cette maladie. Une maladie qui n'avait pas vraiment de nom à cette époque-là.
Merci à Mémoire de Poilu, merci à Fanny, à Stéphane, Jean et Jean-Pierre. Adieu que la guerre est jolie. Un reportage de Charlotte Perry, évidemment, en hommage à Guillaume Apollinaire. À lire et à relire pour l'occasion les poèmes à Lou et les lettres à Lou, au moins, pour les œuvres d'Apollinaire. Et puis parmi les innombrables bouquins et choses qui sortent, films, etc., qui sortent sur ce centenaire de la guerre de 14-18, une bande dessinée de Joe Sacco. Vous connaissez ce dessinateur formidable. Aux éditions Futuropolis, c'est La Grande Guerre, le premier jour de la bataille de la Somme, reconstitué heure par heure. C'est un grand dépliant des dessins de Joe Sacco. Et c'est particulièrement beau. J'ai lu, vous l'avez peut-être remarqué, l'extrait du fameux poème de Louis Aragon, La guerre et ce qui s'en suivit. À l'époque, Louis Aragon était médecin après la guerre, et c'est ceux qu'on allait appeler les gueules cassées dont, en tant que médecin, il s'était occupé.
Et cette fameuse phrase d'Anatole France, on croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels.
C'est pas tout à fait faux. La Grande Guerre, elle a quand même rendu des gens très riches. Et des industriels très riches. Parce que c'est quand même très rentable de vendre des armes, tout le matériel qui va avec. Et puis ça a déjà enrichi pas mal les États-Unis. Ça a relancé l'économie des États-Unis. Bon, au bout d'un moment, ils ont été bien obligés quand même de rentrer en guerre, puisqu'ils avaient prêté beaucoup d'argent déjà à la France. Donc au moment donné, ils étaient obligés de protéger leur investissement. Mais par contre, le pauvre soldat américain qui est venu se faire tuer ici, lui, il n'en a rien retiré. À part se faire trouver la peau, et puis ceux qui sont rentrés chez eux mutilés n'ont rien récupéré.
T'es content ?
Mon adjudant-chef, ça siffle.
Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission sur le site la-bas.org, et puis faites un tour sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Florent Beauvalet et Clément Vuillet. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong, et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Outre passer l'aspirateur dans le corps, qu'est-ce qu'il y a comme autre épreuve technique, si je puis dire, à réaliser ?
Du coup, on en profite, vu qu'on les a tous sortis, pour vérifier qu'ils ne soient pas abîmés. Donc, par exemple, sur ceux-là, il y a ces parties-là qu'on appelle des oreilles, qui servent pour les accorder. Donc ça se referme, donc ça s'ouvre. Et donc, au fur et à mesure, le métal peut être usé. Et du coup, les oreilles peuvent se casser. Donc du coup, on reprend aussi ces petites choses-là.
Il faut dire que les oreilles sont juste de part et d'autre de la bouche, quoi. Comme ça. Pour nous, quoi.
C'est ça. Et en fonction des sonorités qu'on veut avoir, on favorise un alliage avec plus d'étain ou avec plus de plomb. Par exemple, les tuyaux de façade sont très souvent avec une très grande majorité d'étain.
Bonjour à tous et bienvenue dans la cathédrale Notre-Dame à Paris, en compagnie de Claire, Thibault et Pascal, ébéniste, facteur d'orgue et
tuyautier.
Mais oui, il faut savoir qu'à Notre-Dame, en fait, il y a environ minimum 30, voire 35 000 visiteurs par jour qui défilent dans la cathédrale.
Mais il faut dire que vous êtes un peu comme sur un balcon, là, donc vous dominez les touristes, quoi.
Nous, on est un petit peu, oui, privilégiés, en fait. On peut aller un petit peu partout parce qu'on a, voilà, la clé magique.
Vous me ferez un double ?
Ouais. Alors ça va être compliqué.
J'imagine. Et vous vouliez me dire un truc par rapport aux tuyaux, vous m'avez dit ? Il y a les tuyaux.
Oui, on a parlé des tuyaux de métal, mais il y a aussi des tuyaux en bois.
Ah oui ?
Voilà, donc ça correspond généralement à des sonorités de tuyaux en métal.
Vous dites que ça correspond à une sonorité de tuyau en métal ?
Voilà, donc il y a deux parties de tuyaux. Il y a ceux donc, qui ont une majorité d'étain et ceux qui ont une majorité de plomb. Le problème du plomb, c'est que c'est malléable et mou. Et donc pour les tuyaux de basse, des jeux qui devraient être avec un maximum de plomb dans l'alliage, le tuyau s'affaisserait de son propre poids. Du coup, on les fabrique en bois.
Et c'est là où l'ébéniste intervient alors ?
Voilà, c'est ça.
Mais vous, est-ce que vous avez une frustration en tant qu'ébéniste ou en fait vous arrivez à vous réaliser pleinement en tant qu'ébéniste dans l'orgue ?
Oui, ça peut être un petit peu frustrant de ne pas maîtriser tous les côtés parce qu'il y a une partie de la formation qui me manque. Ouais. Mais surtout comme apprenti ébéniste, donc là c'est vraiment tout nouveau pour moi. Mais bon, il travaille.
Et en fait, la base du métier de facteur d'orgue, c'est l'ébénisterie. Parce qu'il y a tout le meuble en bois et toute la mécanique. Après, la partie sonore en étain, c'est quand même une grosse partie, mais c'est qu'une partie du métier, quoi. La grosse partie, c'est vraiment l'ébénisterie. Sur toute la partie sonore, il y a environ 10% de tuyaux en bois. Pour avoir les graves, les plus graves sont en bois, quoi.
Et vous avez fait quoi comme étude ?
Comme étude, simplement un CAP. Il y a une école à Strasbourg, la seule école en France, une école où il n'y a pas que des apprentis facteurs d'or, c'est une école où on forme plusieurs métiers, mais il n'y a que là-bas où on peut se former pour ce métier-là.
Pendant combien de temps vous restez sur Paris ? Pendant 6 mois, vous...
Oui, moi je suis arrivé donc pour le début du chantier début janvier, et en gros je reste sur Paris jusqu'à la fin mai. Et après, en gros, ça va être la partie où ils vont commencer à remettre les tuyaux dans l'instrument pour commencer l'harmonie, donc ça va être la partie, le travail sur le son. Qui va commencer, donc là, c'est pour ça que je n'y serai plus.
Là, c'est la partie, il faudrait que je revienne. Pour la radio, c'est plus intéressant.
Ce sera plus intéressant, effectivement.
Et vous serez là quand on remettra les tuyaux non plus ? Pareil.
Non, pareil. Non, après, là, ce sera justement Bertrand Catio lui-même qui sera là, et vous pourrez venir à ce moment-là, il vous expliquera. Il connaît l'orgue, lui, depuis, je pense, à peu près 40 ans. Donc, il connaît par cœur. Et lui, il pourra vous en dire encore plus.
Bon, je vous laisse travailler, puis je vais continuer la visite du chantier. Hein. Je vais vérifier les 7500 tuyaux.
Oui, voilà.
C'est gentil de donner un coup de main.
Bah, c'est normal, écoutez. Je ne suis pas venu pour rien, quand même.
C'est gentil.
Donc voici Pascal Four, mon associé.
Bonjour.
Nous, on fait partie de l'atelier Voix Humaine, en fait. On s'appelle Voix Humaine, parce qu'il y a un jeu de l'orgue qui se nomme comme ça.
Parce qu'il y a combien de jeux dans l'orgue ?
Alors là, il y a 7500 tuyaux, et en fait, ça correspond à peu près à 110 jeux.
Mais alors, voix humaine, parce que ce sont les tuyaux qui se rapprochent le plus de la voix humaine ?
Alors, c'est un jeu, qui a été nommé comme ça. Mais enfin, en fait, ça ne ressemble pas vraiment à une voix humaine quand on l'entend, parce que c'est plus, on dirait plutôt une chèvre.
Ah oui.
Donc, ça n'a pas grand-chose à voir.
Vous pouvez me faire écouter ?
Alors là, non, parce que j'en ai pas sous la main.
Et dans celui-là, vous pouvez souffler ou pas ?
Là, c'est impossible. On n'a pas assez gros poumons. On peut toujours essayer, mais...
Ça ne fera pas de bruit, quoi.
Non, voilà, ça ne fera rien du tout.
Et vous, alors, qu'est-ce qui vous a amené à être tuyautier ?
Parce que je fréquentais des facteurs d'orgue, tout simplement.
Et pourquoi vous fréquentiez des facteurs d'orgue ?
Parce que j'habite un tout petit village et il y avait 2 entreprises de facteurs d'orgue à l'époque. Donc c'était difficile de les ignorer.
Il s'appelle comment ce petit village ?
Bétine, dans la Vienne.
Il y a combien de facteurs d'orgue en France ?
Il y a une bonne centaine d'entreprises. Mais c'est des toutes petites entreprises. C'est bien souvent deux ou trois compagnons. Quoi.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Ah, le beau sourire!
J'ai fait des économies cette année avec le livret Matmut, il est bien!
Et tu fais ce que tu veux de tes sous?
Oui, je les garde ou je les dépense!
Tu m'invites au restaurant avec tes sous?
J'ai pas faim!
Livret distribué par la Matmut en tant qu'IOB, numéro Orias 13 890 pour le compte de la Banque Française Mutualiste, conditions sur matmut.fr.
Professionnel, besoin d'une idée lumineuse pour bloquer le prix de votre électricité? GDF Suez Énergie France vous garantit un prix de l'électricité sans augmentation pendant 2 ans. En plus, une remise de 5% sur le prix du kilowattheure. Appelez le 3050. Appel gratuit depuis un fixe, voire conditions sur notre site. GDF Suez Énergie France, être utile aux hommes. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire de l'exposition Motion Factory Les Ficelles du Monde Animé, du 24 avril au 10 août à la Gaîté Lyrique. Trucs, astuces, jeux d'échelle, de lumière. Depuis sa création, l'animation regorge d'inventivité tactile et artisanale pour créer des univers singuliers, repousser les limites et explorer les possibles. La Gaîté Lyrique se faufile dans les coulisses de l'animation et expose les imaginaires les plus fous d'une génération qui réalise des films comme on réalise des tours de magie. Retrouvez Motion Factory, les ficelles du monde animé, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2014, du 22 au 27 avril. Avec Metronomy, Girls in Hawaii, Christine and the Queens, Stromae, Winston McAnuff & Fix, Chaka Ponk, Kavinsky, Fauve, Lisa Leblanc, Emily Simon, Cat Centuries et beaucoup d'autres. Retrouvez le Printemps de Bourges Crédit Mutuel dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est encore 16h. Le flash Maxime Deps.
Les bonnets rouges qui devaient être jugés aujourd'hui à Rennes pour avoir détruit un portique Ecotax devront attendre avant d'être fixés sur leur sort. Leur procès cet après-midi a été reporté à une date ultérieure. Sur les 11 prévenus, 8 étaient écroués dans l'attente de leur comparution. Le tribunal doit encore statuer sur leur maintien ou non en détention. Eux sont 8 également et n'ont pas donné de nouvelles depuis hier soir. Vers 22h ce lundi, 8 enfants âgés de 8 à 14 ans ont fugué d'un centre à Glaizé dans le Rhône, centre qui accueille des ados placés sur décision judiciaire. Les intéressés sont bien sûr depuis activement recherchés. Économiser, oui, mais pas à n'importe quel prix. Au PS, tout le monde est d'accord, il faut trouver 50 milliards pour redresser la France, c'est nécessaire. Mais reste à s'accorder sur la méthode pour y parvenir. Un groupe de députés socialistes espère toujours convaincre Manuel Valls de ne pas geler le point d'indice des fonctionnaires et d'épargner les petites retraites. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Le Roux, appelle à prendre en compte la situation des plus fragiles. Les élus frondeurs sont en ce moment reçus à Matignon. La France prendra toutes les mesures pour dissuader, empêcher, punir ceux qui seraient tentés par la guerre sainte. Les mots de François Hollande cet après-midi, alors que Laurent Fabius estimait ce matin à 500 le nombre de djihadistes qui ont fui la France pour rejoindre les combats en Syrie. Un plan spécial pour lutter contre cet exode doit être présenté demain en Conseil des ministres. Les sorties de territoire des mineurs devraient être encadrées. 50 millions de dollars, 36 millions d'euros, c'est la somme que les États-Unis ont finalement décidé de débloquer aujourd'hui pour venir en aide à l'Ukraine. Annonce faite cet après-midi par la Maison-Blanche, alors que le vice-président américain Joe Biden se trouve actuellement à Kiev. 11 des 50 millions débloqués devront servir au bon déroulement de l'élection présidentielle programmée le mois prochain. Si vous aviez prévu de gravir l'Everest cette année, peut-être devriez-vous revoir vos plans. Les guides népalais, les fameux Sherpas qui assistent des centaines d'alpinistes chaque année dans leur ascension, ont décidé aujourd'hui de ne plus gravir les pentes du mont cette saison, et ce en hommage à 16 de leurs collègues tués dans une avalanche en fin de semaine dernière. 16h03 sur France Inter, tout de suite c'est Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Maxime Debs, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui François Leleu, oboïste, chef d'orchestre, arrangeur. Bonjour François.
Bonjour.
Bah écoutez, vous faites des merveilles dans le monde entier. Le Times nous dit que vous êtes un musicien étoile, que vous avez des compétences, une personnalité phénoménale, affichée dans une vaste gamme de couleurs et de dynamiques. Et vous êtes quelqu'un qui livre avec un clin d'œil d'esprit la musique à travers un hautbois qui nous entoure d'air de manière permanente. Un hautbois entourant constamment l'air. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Enfin, quelque chose qui nous fait respirer, quoi. Alors, votre passion pour le hautbois est venue quand ?
Eh bien, j'étais jeune en initiation musicale. Et à 4 ans, j'ai vu le hautbois et j'ai commencé à l'âge de 5 ans.
C'est pas l'oreille, c'est la vue ou
c'est la vue, parce que le hautbois est un instrument d'ébène noir, en fait, avec des clés en argent. Ah et oui. J'ai trouvé ça très très beau. C'était à l'époque des montres à quartz qui venaient de sortir.
Oui.
Et je voulais absolument avoir une montre à quartz et jouer le hautbois, parce que c'était un instrument qui brillait. Voilà. Donc ça m'a énormément plu. Et à 5 ans, j'ai eu la chance de pouvoir commencer tout doucement, un petit peu en dehors du cursus du conservatoire de Roubaix. Et puis après, voilà, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir et j'ai toujours aujourd'hui beaucoup de plaisir. Le hautbois, pour moi, c'est avant tout du plaisir à donner, à avoir. Et j'ai toujours eu cette ligne qui m'a beaucoup aidé parce que, si vous voulez, il faut toujours, quelque part, avoir quelque chose de positif à donner au public, je pense.
Ah oui, sinon on reste chez soi.
C'est oui, mieux, hein, exactement.
Voilà. C'est ça. Ben, comme disent les Japonais, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Hein. on va attaquer parce que vous faites des transcriptions, je l'ai dit tout à l'heure, mais oui. Formidable. Donc, de Don Giovanni, vous avez extrait, entre autres, l'air du champagne, comme on dit. C'est l'air
oui.
du vin.
L'air du vin, exactement.
Don Giovanni, faut donner du vin à tout le monde.
Exactement.
Ben, on va vous entendre directement. Français, on dit l'air du champagne, mais on ne vérifie pas l'appellation.
Hein. Exactement.
À boire, dit Don Juan, tout simplement. Tiré de Don Giovanni, vous-même au hautbois, François Leleu, avec la Camerata de Salzbourg, que vous dirigez, parce que c'est une de vos facettes aussi, de vos capacités.
Oui.
Ça, c'est arrivé quand ? L'envie de.
C'est arrivé il y a 17 ans, quand j'ai. En fait, bien avant ça, quand j'ai gagné le concours international de Munich, la présidente qui était Renate Ronefeld m'a dit : vous êtes un chef-né. J'avais donc à peine 20 ans. Et beaucoup d'orchestres, quand j'allais jouer en soliste, m'ont dit : vous êtes un chef. Fedo Saïef m'a dit que j'étais un chef. Et à 25 ans, il y a l'orchestre de chambre de Géorgie, avec lequel j'ai fait beaucoup de projets, m'ont dit « il faut que tu nous diriges ». Et ils m'ont donné 2 saisons où j'avais l'orchestre en main, à 25 ans, où je pouvais diriger tout ce que je voulais. Alors évidemment, c'était formation de chambre. Et donc, un petit peu à la fois, j'ai continué à développer cette deuxième carrière, parce que c'est vrai que le répertoire du hautbois étant un répertoire éclectique, où les gens n'ont pas toujours, surtout les chefs d'orchestre, n'ont pas toujours la force d'apprendre de nouveaux morceaux. Grâce à cette direction, je pouvais un peu programmer le concert autour du répertoire du hautbois,
ce qui est souvent
très heureux. Des œuvres modernes.
Ouais, parce que les chefs, ils préfèrent aller dans dans l'habitude, on va dire.
Oui, c'est ça. C'est difficile d'apprendre tous ces nouveaux concerts.
Bah oui,
surtout
c'est
fatigant. C'est pas toujours pour eux. Mais donc, un petit peu à la fois, effectivement, j'ai développé ça et c'est pour mon plus grand plaisir parce que ça permet justement de faire des choses qui sont très homogènes et qui procurent au public quelque chose de très homogène dans le concert et parfois surprenant.
En dehors des sentiers battus,
tout voilà, à fait.
Des œuvres modernes. Alors celui-là, il n'a pas tant d'ambition. C'est Papageno dans La Flûte Enchantée, l'air de l'Oiseleur, qui dit simplement qu'il veut avoir une jolie petite femme et puis avoir un bon coup à boire et un toit sur sa tête. C'est plus simple.
Ça se comprend.
Oui, mais ça peut se dire aussi en musique, là.
Voilà.